Le journal de 18h, bonsoir Hélène Roussel.
Bonsoir. Vincent Lambert et l'arrêt des traitements. La cour de cassation ouvre à nouveau la porte. L'arrêt de la cour d'appel de Paris cassé. On y revient dans une poignée de secondes. Historique, plus de 45 degrés en France du jamais vu. Le Gard explose les records de chaleur. Toujours 4 départements en rouge. Une noyade chaque jour depuis le début de la semaine selon le gouvernement qui en appelle à la responsabilité de chacun. Éviter notamment les déplacements vers le sud en voiture ou en train. Ce soir ou jamais pour les Bleus, quart de finale du mondial face aux surdoués américaines. On ira faire un tour au Parc des Princes à 3h du coup d'envoi. Et puis Alexandre Kantorov, retenez bien son nom, il va être une star et on vous dit tout à la fin du journal.
France Inter.
La cour d'appel de Paris n'avait pas le droit le mois dernier d'ordonner la reprise des soins pour Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif depuis 11 ans, toujours hospitalisé à Reims, devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. La haute juridiction a donc cassé l'arrêt cet après-midi et ne renvoie pas l'affaire devant un nouveau juge. Corinne Audouin, vous êtes à la cour de cassation. Est-ce que ça veut dire, comme l'annonce l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert, que les traitements peuvent s'arrêter dès maintenant ?
Oui, Hélène, on ose à peine le dire, hein, tant cette affaire a connu de rebondissements et de péripéties, mais c'est sans doute ce soir l'épilogue de l'affaire Vincent Lambert. La Cour de cassation, qui a statué, il faut le souligner, en un temps record, annule la décision de la Cour d'appel de Paris. Le 20 mai dernier, à la surprise générale, les magistrats avaient enjoint à la France de reprendre les traitements de Vincent Lambert, arrêtés le matin même. Et ce que dit la Cour de cassation, eh bien, c'est que la Cour d'appel n'était pas compétente pour prendre cette décision. En effet, toutes les juridictions se sont déjà prononcées sur le cas de Vincent Lambert, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, toutes ont validé la décision des médecins du CHU de Reims, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une atteinte au droit à la vie, au sens de la Constitution. Alors que va-t-il se passer ? Judiciairement, les parents de Vincent Lambert n'ont plus aucun recours, même si leurs avocats menacent ce soir de poursuivre personnellement le docteur Sanchez, responsable de l'unité où est hospitalisé Vincent Lambert. Le combat, on le comprend, va continuer sur un plan politique. La mère de Vincent Lambert sera lundi devant le comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour sensibiliser les autres pays au cas de son fils. Mais plus rien ce soir ne s'oppose à ce que les traitements de Vincent Lambert soient à nouveau suspendus.
Corinne Audouin avec Marcos Darras à la technique. Merci à tous les deux. Le neveu de Vincent Lambert, lui, s'est dit serein tout à l'heure. François Lambert.
Une décision qui a été prise par un médecin, qui a été validée par le Conseil d'État et qui a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas une décision illégale. En fait, c'est un arrêt qui est très très basique, qui est c'est probablement un des arrêts les plus basiques de la Cour de cassation, parce que c'est presque un cours de droit pour première année droit, en fait, hein, parce que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, encore une fois, il était totalement à côté des clous. Donc moi, j'étais serein avant, je reste serein maintenant. Les parents de Vincent continuent d'annoncer des recours, on verra ce que ça donne. Pour le moment, je pense que l'arrêt des traitements est plutôt à faire. Et je pense que le CHU de Reims, il a montré beaucoup de volonté depuis quelques semaines, quelques mois. Et je pense qu'il est décidé à arrêter les traitements et je pense qu'il va le faire.
François Lambert, le neveu donc de Vincent Lambert.
C'est du jamais vu en France, Hélène. Le seuil des 45 degrés a été dépassé.
15 heures, Galargues-le-Monteux, 45 degrés 9, presque 46, donc à Villevieille. 45,1, le Gard, donc, explose tous les records. Plus de 45 degrés, ça donne quoi ?
Eh bien, on n'est pas sorti, on ne sort pas là, on est dedans à la maison, on est enfermé et on met pas le nez dehors. Je suis partie à Nîmes chercher mon fils à la gare et je suis revenue et c'est vrai qu'au soleil, ben, il est chaud. On peut pas y rester trop longtemps, quoi. Et, au bout de 10 minutes, ça brûlerait et puis ça tape aussi, ouais. C'est pas agréable. Et ça donne mal à la tête aussi. Je suis rentrée depuis 2h30 et depuis, je suis pas ressortie. Mais bon, dans la maison, on sent quand même la chaleur, ouais. On suit le fil de la température. Je réfléchissais que c'est la couleur du ciel. Il me semble que quand j'étais jeune fille, hein, le ciel était plus bleu. Vous voyez, il était moins... Là, il est bleu, mais avec un petit peu de gris derrière. C'est la première année de ma vie, je crois que je vois qu'il fait aussi chaud. Comme ça, non, je crois pas.
Une habitante de Villevieille dans le Gard, jointe par nos confrères de France Bleu, en rouge sur la carte au moins jusqu'à dimanche. Le Gard, on l'a dit, avec aussi l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Sur l'autoroute, on imagine déjà les brumes de pollution et le goudron qui font éviter les déplacements, surtout vers le sud. En voiture donc, mais aussi en train, c'était le message de la ministre des Transports ce matin en gare de Lyon. Le réseau ferroviaire n'a pas été conçu, dit-elle, pour fonctionner avec de telles températures. Ça tombe mal pour certains, c'était les départs en vacances. Les Gard gares sont bondées. Ce soir, la SNCF fait un geste, annonce que les billets longue distance pourront être échangés ou remboursés sans frais jusqu'à dimanche inclus. Un gouvernement sur tous les fronts de la canicule qui appelle à la responsabilité de tous. Le Premier ministre Édouard Philippe signale une noyade par jour depuis le début de la semaine. Un jeune homme de 18 ans s'est noyé hier soir à la base de loisirs de Cergy dans le Val d'Oise, un autre à Chey dans le Doubs. La canicule avec 4000 écoles fermées aujourd'hui et des maraudes intensifiées. 17 de plus en région parisienne, 12 en Rhône-Alpes. Quant au département, il en reste 74 quand même en vigilance orange ce soir, de 34 à 39 degrés jusqu'à 40 sur le centre ou l'Auvergne. 37,3 degrés à Dijon, encore un record, on ne les compte plus. À Paris, la chaleur ressentie est atténuée par le vent qui souffle depuis plusieurs jours. Demain, attention, les températures vont remonter, ça ira mieux dimanche. Le point complet sur la météo à la fin de ce journal. Plus de 40 degrés aussi en Espagne, en Catalogne. Un feu de forêt a ravagé 6000 hectares en 24 heures. Et plus au sud, en Andalousie, un adolescent de 17 ans est mort aujourd'hui d'un coup de chaleur. Ce n'est pas la faute à la canicule, mais plutôt au réchauffement climatique. Les hivers sont trop doux et puis il y a les nitrates en hausse. Cocktail explosif, la marée verte est de retour sur les côtes bretonnes. 6500 tonnes d'algues vertes ramassées sur le littoral de la baie de Saint-Brieuc ces dernières semaines. C'est simple, c'est déjà plus que sur toute la saison dernière. Plusieurs accès au littoral ont été fermés. Et encore une fois, 2019 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, nous dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Idem pour la période 2015-2019, en passe de battre tous les records depuis les premiers relevés scientifiques. Des scientifiques qui anticipent des vagues de chaleur, 2 à 3 fois plus nombreuses d'ici à 2050. Sur le terrain, les mobilisations pour le climat, elles, se multiplient et deviennent régulières. À Berlin, cet après-midi, plusieurs centaines de jeunes ont encerclé le Reichstag pour demander aux députés de réagir. À Paris, des dizaines de militants ont bloqué ce matin le pont de Sully ou alors ont été rassemblés devant l'Élysée tout à l'heure. Et puis près de Dijon, une marche contre le réchauffement climatique a été annulée demain à cause de la canicule. Ça pourrait presque être drôle si ce n'était pas dramatique.
Une urgence climatique qui ne figure pas pourtant comme une priorité sur la liste du G20 à Osaka, au Japon.
Car parmi tous les dirigeants du monde, un seul occupe la scène depuis son arrivée, Donald Trump. Poignée de main et blague avec Vladimir Poutine. Photo, tout sourire et pouce levé avec le président d'extrême droite brésilien Bolsonaro. Bavardage avec le saoudien Ben Salman. Et la rencontre la nuit prochaine avec le président chinois Xi Jinping risque bien d'éclipser tout le reste. Dominique André est l'envoyé spécial de France Inter à Osaka.
Faut-il se fier aux dernières déclarations du président américain qui dit s'attendre à une rencontre productive demain alors que le même Donald Trump assure n'avoir fait aucune promesse de gel de droits supplémentaires sur les marchandises chinoises? La réponse est toujours la même. Comment peut-on croire un président qui dit tout son contraire, confie un diplomate chinois? La dernière fois que Donald Trump et Xi Jinping se sont vus en tête-à-tête, c'était en novembre dernier. Depuis, les négociations sont tombées dans l'impasse. Selon le Wall Street Journal, Xi Jinping présentera demain une série de conditions auxquelles Washington devra se plier avant que la Chine n'accepte de conclure un accord commercial. Le ministère du Commerce à Pékin a déjà demandé une annulation sans délai des sanctions américaines contre le géant Huawei. Les retrouvailles des deux dirigeants sont très attendues par tous les participants à ce sommet qui craignent, comme les marchés boursiers fébriles, les effets dévastateurs d'une guerre commerciale sur la croissance mondiale. Osaka, Dominique André, France Inter.
De Paris jusqu'au Kurdistan irakien, des grands-parents à la recherche de leurs petits-enfants. Les époux Lopez, deux éducateurs à la retraite, sont les premiers à avoir tenté un tel périple. Partis pour retrouver leurs 4 petits-enfants retenus dans un camp réservé aux familles de djihadistes, leur fils, converti et radicalisé, est aujourd'hui en prison à Bagdad et condamné à mort. Les grands-parents espéraient une rencontre avec leurs petits-enfants, mais les Kurdes ne les laissent pas entrer dans le camp. Contrairement à d'autres proches, d'autres nationalités, le couple Lopez, lui, n'a eu droit qu'à quelques secondes à travers un grillage dans un décor de fin du monde. Sophie Parmentier a pu rencontrer le grand-père à son retour. Témoignage.
Nous avons vu à une certaine distance au loin deux petites silhouettes qui s'étaient faufilées entre les tentes et qui s'étaient accrochées aux grilles. On a reconnu les deux aînés de nos petits-enfants, l'aîné à 9 ans et l'autre à 5 ans. On a pu les embrasser à travers la grille, les toucher. On leur a dit qu'on les aimait, on leur a dit qu'on pensait à eux, on leur a dit qu'on allait tout faire pour qu'ils rentrent en France. Mais ça a été un moment extrêmement bref. Au bout d'une minute, de 2 minutes, Les gardes s'en sont aperçus, ils ont accouru, ils nous ont demandé de nous en aller. Voilà, l'image qu'on retient, qui nous quittera sans doute jamais, c'est ces petites mains accrochées au grillage, leur regard à travers la grille, puis nous qui, en fait, qui marchions à reculons, là, avec les gardes qui nous poussaient et qui nous demandaient de partir. Et donc ce qui nous a frappé à ce moment-là, c'est de se dire, c'est non seulement la mère qui est prisonnière, mais ce sont les enfants qui sont prisonniers. Et c'est ça qui est profondément choquant.
Et le couple Lopez a écrit à Emmanuel Macron pour demander le rapatriement des enfants de djihadistes. Une lettre que vous pouvez lire, elle est en ligne sur franceinter.fr. Des tirs devant la mosquée de Brest, 2 personnes blessées, dont l'imam. Le suspect est mort, il a été retrouvé une balle dans la tête. Cette fusillade pour le parquet n'est pas un acte terroriste.
Allez Hélène, on passe au foot, le mondial. Les Françaises jouent dans moins de 3 heures maintenant pour une place en demi-finale.
L'instant bleu, les joueuses de Corinne Diacre affrontent les bêtes noires de ce mondial, ou les chouchoutes comme vous voulez, les américaines tenantes du titre, triple championne du monde, une équipe impressionnante qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du mondial. Ça va être gros, ça va être chaud. Bonsoir Yann Gallick.
Bonsoir.
Vous êtes au Parc des Princes, 3 heures avant le coup d'envoi, les supporters sont déjà dans les starting blocks. Hein.
Et plus de 30 000 supporters français et 10 000 américains sont attendus ici au Parc des Princes. Tous les billets, vous vous en doutez, ont été vendus pour ce match qui suscite un véritable engouement, à tel point que des sites internet illégaux basés au Canada et en Asie proposent des places à des prix exorbitants entre 450 et 9 000 euros. Mais attention, les organisateurs de la Coupe du Monde ont prévenu, tous les spectateurs qui ont acheté leurs billets au marché noir seront refoulés à l'entrée du stade. Alors les supportrices et les supporters sont déjà nombreux aux abords du Parc des Princes, tous très impatients de voir ce match au sommet, une sorte de finale avant l'heure entre les Françaises qui jouent à domicile et les championnes du monde en titre. Portées par leur public, les Bleus devront réaliser un quasi sans faute ce soir pour espérer vaincre les Américaines, grandes favorites de la compétition, dans une ambiance surchauffée dans tous les sens du terme, puisqu'il fera encore près de 30 degrés à 21h lorsque l'arbitre sifflera le coup d'envoi de ce quart de finale.
Il y aura des pauses fraîcheurs de 3 minutes pendant le match. Yann Gallick en direct du Parc des Princes avec Alexandre Bergel à la technique. Coup d'envoi États-Unis-France ou France-États-Unis plutôt 21h. Enfin là, c'est un peu la Coupe du Monde de la musique classique. Un concours prestigieux tous les 4 ans. Le concours Tchaïkovski. Pour la première fois, c'est un Français qui a été récompensé. C'est aussi son premier concours. Il n'a que 22 ans. On va retenir son nom, Alexandre Kantorov. Car Corinne Pellissier, il va devenir une star.
Exactement. Son compositeur préféré lui aura porté bonheur. C'est avec le concerto pour piano numéro 2 de Brahms que le jeune Clermontois a fait basculer le cœur du jury après plusieurs jours de compétition. Un exploit pour ce Français, le tout premier à remporter l'une des disciplines de ce prix prestigieux depuis sa création il y a 60 ans. Le début aussi d'une nouvelle aventure. Alexandre Kantorov, 22 ans, désormais reconnu comme l'un des pianistes les plus talentueux de sa génération et l'un des plus prometteurs. Il n'avait jusqu'ici jamais participé à un seul concours. En dépit d'une maturité artistique déjà bien affirmée, invité à jouer à 16 ans aux Folles Journées de Nantes, à 17 à la Philharmonie de Paris, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Concertos de Berlin et déjà plusieurs albums. Son dernier disque consacré au concerto pour piano de Camille Saint-Saëns lui avait valu une nomination aux Victoires de la musique dans la catégorie des révélations.
Corinne Pellissier, Alexandre Kantorov, donc c'est bien noté.